Bonjour à toi auditeur, tu viens de lancer un épisode de la saison 1 du podcast À Chaud. Ce message pour te prévenir de la qualité hasardeuse de cette saison, avec du matos pas top et le concept de s'enregistrer au milieu de la rue à l'arrache qui n'était pas top non plus. Bref, on a amélioré tout ça avec la saison 2, où là on est en studio avec un son correct. Enfin j'espère. Si tu es aventurier, et ça j'en doute pas, continue la lecture, parfois il peut y avoir des bonnes surprises. Allez, bonne écoute.
Avant de commencer, j'y vais.
Ouais.
Je crois qu'il faut te taxer des clopes, c'est ça?
Bien sûr.
Une pour la route pour arriver jusqu'au restaurant.
Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid.
Bon, ça va pas recommencer.
C'est bien qu'on est pas gratté depuis quelques temps.
J'ai chaud, je me sens pas très bien.
Non, c'est le vin chaud. Ça va aller.
Si t'as ni chaud ni froid, eh ben t'appuies sur le bouton marqué médium.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous et bienvenue dans À Chaud.
Ça y est,
on est
de retour.
On est de retour après deux mois d'interruption pour cause de matos. Attends, je vais juste un peu parce que
t'as l'impression que ça
frotte beaucoup. Voilà.
Là, d'accord.
Bien. Ouais, là c'est bon, ça frotte un petit peu.
Ça fait bizarre. Ah, parce que tu t'entends en fait, t'as les retours.
Ah oui, j'ai le retour là. Donc alors, je dois dire que maintenant on est équipé. C'était simple la raison de notre temps de.
Tout ce qui peut nous arrêter, c'est la neige maintenant, la tempête.
Voilà. Donc on a tous les deux des beaux petits micros cravates.
On a fait de l'investissement.
Voilà, comme on dit.
Pour pouvoir être plus sauvage.
Tout à fait. Et donc voilà, donc ça fait plaisir de se retrouver. Je sais plus parler.
Alors nous, on s'est retrouvés souvent quand même.
Oui, mais bon, on n'a pas fait quand même des foufous.
Non, mais on a été au cinéma.
Ouais.
On a vu des films.
Ouais.
Et là, ce soir, on a vu qu'on avait envie de faire un
petit podcast.
Un petit podcast, effectivement.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu, Lionel?
Alors, ce qu'on a vu, JB, ce soir, c'est la nouvelle version de The Invisible Man.
Invisible Man, yes. On revient de la séance. Et écoute, c'était sympa, en fait.
Eh ben, moi, j'étais agréablement surpris, effectivement. Ouais, parce que le gars, ce réalisateur de la maison Bloom qui a... Ah si hein.
Si on peut le dire, maison
si
Bloom.
Si on peut le dire, hein. Et puis dans ce style de cinéma justement là, il a fait les trois premiers sauts, il a participé à deux Insidious.
Ouais. C'est un pote de James Wan.
C'est un pote de James Wan, d'accord. Et il a fait.
Non désolé.
Il a fait dernièrement. Rien à cache, on peut pas qu'on prévoit ça.
Ouais c'est clair.
Et non, enfin, son dernier film par contre, avant celui-ci, The Invisible Man, c'était Upgrade. Je sais pas si tu l'as vu.
Ah, Upgrade, sur Netflix.
Ah bon? Sur Netflix? Ah ouais?
Ouais, il me semble.
Ah merde, je l'ai loué moi.
Ah merde.
Mais faut faire marcher les.
Les petits.
Ouais, les petits centres de location. Mais. Il était pas mal déjà, je trouvais.
Moi j'ai. Ah non, mais je confonds, c'était pas sur Netflix, je confonds, c'est avec la maison intelligente?
Non, justement, c'est l'histoire d'un mec en fait qui perd sa femme et qui est paralysé de tout son corps. Et en fait, la société dans laquelle travaille sa femme travaillait en fait dans l'amélioration du corps humain.
D'accord.
C'est-à-dire des systèmes robotiques et tout ça, quoi.
D'accord, ok.
Et du coup, il lui propose de lui en installer un, quoi. Et du coup, il devient un vrai super soldat, quoi.
D'accord.
Et du coup, ça lui permet de pouvoir découvrir la réelle raison de la mort de sa femme.
D'accord.
Ça c'était une parole.
Ok.
Pas spoiler. Du coup là, c'est marrant parce qu'avec Superman, on retrouve un peu le principe de l'homme upgradé parce que
bon,
on va pas le upgrader pour le moment.
Tout de suite.
Mais il y a un côté, il y a des choses qu'on retrouve un petit peu quoi.
D'accord. Ok. Bah écoute, ouais, moi j'étais très surpris, mais dans le bon sens en fait. C'est un bon petit film d'horreur sympathique.
Comme vous disiez avec Jérémy sur les films.
Ouais, c'est pas vraiment un thriller, t'as beaucoup de codes horrifiques.
Ouais.
Beaucoup.
Et c'est clair. Il en joue beaucoup d'ailleurs. Hein. Il est. Ses plans de caméra.
Ouais, on est vraiment à fond dedans quoi. Là.
Au bout d'un moment, ça devient même pesant quoi en fait. Tu vois très bien ce qu'il veut faire. Bon, c'est bon, ça va quoi.
Ouais, c'est ça quoi. Et le revisite du mythe de l'homme invisible, moi j'étais un peu décontenancé au début par le parti pris en fait. Mais
ouais.
En même temps, j'ai beaucoup aimé le parti pris. Parce
lequel
qu'en fait,
comment
alors,
ça
je vais recommencer dans l'ordre. En fait, là maintenant, dans cette revisite du mythe de l'homme invisible, c'est qu'on est du point de vue de la victime. Ouais. Et c'est vachement ça qui est intéressant. Ouais. Alors qu'avant, on se basait uniquement sur le point de vue de l'homme invisible qui fait une expérience qui tourne mal et qui du coup le rend invisible.
Et on le recherche, il est poursuivi et il est voilà quoi.
Et voilà, et donc, du coup, il y a toute une situation de quiproquo. Mm. Et là, en fait, on tombe sur l'histoire d'une femme qui est harcelée par son mari.
Alors là, on spoil pas, hein. On comprend très rapidement, c'était le début. Quoi.
C'est tout début, qui vit dans une très belle maison sur la baie de San Francisco. Ouais. Et...
Ouf, belle baraque, hein. Ouais, oh là là.
D'ailleurs, je me suis dit, le truc, c'est que tu déplaces un meuble tous en temps, t'imagines. Tu pètes un petit coup tranquille, comme ça, tous en temps à crever dans ça résonne partout. C'est juste horrible, quoi, c'est juste horrible.
C'est clair, putain. T'as encore de l'écho 3 jours après, quoi. C'est quoi ce truc? Ah, mais non. Ah oui, c'est mon pète, il y a 3 jours.
Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Qu'est-ce que tu m'as fait?
Il n'y a que le bruit qui reste.
Et donc, du coup, et après, l'histoire se passe vraiment du point de vue de la femme, ouais, harcelée, et après, on se rend compte qu'il y a son ex-mari, est un peu invisible parce qu'elle se fait harceler.
Donc ouais, en fait au début elle s'échappe.
Elle s'échappe
de son...
Et elle se fait un peu harceler après s'être échappée et avec beaucoup de choses mystérieuses.
Oui, donc, voilà, donc là, par un mystère parce qu'ils sont harceleurs.
Ah, désolé, on a... En fait,
mais on a pas de monnaie du tout.
Pas de liquide. Non, désolé, on a vraiment pas de monnaie. Non, désolé. Je pense bien, mais on a vraiment pas, je suis désolé.
Je suis pas plus gentil.
S'il vous plaît.
C'est juste que je peux.
Bah, c'est allez. Un vide, je n'ai rien mangé, je on a fait ça, moi, pas manger.
Mais autrement, je peux voir pour éventuellement peut-être un. Attends.
Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi de.
Non. Mais... Hey!
Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée.
Je fais un plaisir.
Ça, c'est Bruxelles en 100 mètres. 4 fois.
En 100 mètres, ouais.
Bon, c'est ça. Ouais. Et moi, ouais, j'ai vraiment pas de liquide sur moi, donc du coup, c'est.
Non, et moi, j'en avais.
Voilà. Ouais, écoute, bah, peut-être la prochaine fois, j'aurai du liquide et ce sera moi.
Mais
pour revenir au film.
Grosse baraque, elle s'échappe.
Voilà, mais cette perspective, tu vois, de.
Oui, non, juste pour préciser quand même, le mystère dont tu parlais, le mystère de quoi? Parce qu'en fait, ça aussi, on l'apprend au début, c'est pareil, moi, un spoil. C'est que son mari, pervers narcissique, se suicide.
Voilà.
Et donc il est mort. Mais elle continue à complètement psychoter.
Voilà, tout à fait. Donc elle est traumatisée par...
soi-disant présence.
Voilà, tout à fait. Et mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, c'est une autre approche, tu vois,
complètement.
Du mythe de l'homme invisible. On n'est pas du tout dans le bouquin de H.G. Wells, qui est le matériel de base.
Non. Là, c'est une sorte de version afflelou psychopathe, quoi.
Afflelou, oui, c'est clair. On peut dire afflelou. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, l'actrice, on va quand même citer l'actrice principale,
Elisabeth Moss,
qui tient, mais à fond, à fond le film. Qui porte le film sur elle d'ailleurs.
Dans les séries où elle a pu jouer auparavant.
Huntsman's Tale, dans The Square aussi.
Mad Men aussi.
Mad Men aussi, tout à fait, qui a été découvert par Mad Men.
Elle a plus torché dans les...
Top of the Lake aussi.
Ouais,
Si, Top of the Lake, c'est de Jane Campion. Ouais.
D'accord. Mais elle a vraiment cartonné dans les séries, et là, elle essaie de refaire son trou, je pense, dans le cinéma, quoi. Enfin, ouais, c'est pas mal de tenter son coup dans le cinéma de genre, un petit peu, quoi.
Et là, ce physique, tu vois, qui est pas de jeune première, qui est d'un physique tout à fait normal, et son jeu est, je trouve, bien, est très juste, en fait. Et c'est ça qui fait que le film, au final, tient le coup, parce que tu y crois, tout est super.
Elle arrive à te faire ressentir la psychose que vit cette femme tout au long du film, quoi. C'est dans son jeu d'actrice, elle a vraiment un range intéressant, puisque c'était une critique de Hugues Daillé que t'as dû entendre aussi, je pense.
J'ai pas entendu.
Et je trouvais ça assez vrai, c'est que c'est typiquement le genre de physique de femme, en fait, qui elle peut se rendre laide, comme elle peut se rendre extrêmement belle, quoi. Et de là, en fait, t'as une sorte... Bonne soirée. Et de là, en fait, à travers ça, donc, dans ses plus grandes faiblesses dans le film et tout ça, elle a vraiment une crédibilité à fond. Elle a une force, elle a une dureté dans son personnage qui, du coup, quand elle devient tendre ou quand elle se calme, ça la rend une fois plus intéressante dans son côté, justement, fragile. Après, c'est assez stéréotypé de présenter un peu la chose comme ça, mais c'est beaucoup plus, on va dire, accentué après dans son personnage.
Oui, complètement.
Mais je trouve que du coup, elle le tient bien, quoi, elle le fait bien. C'est toujours dans la limite, il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de stéréotypé de la femme.
on n'est pas du tout, effectivement c'est ça, on n'est pas du tout dans le cliché, mais alors pas du tout. Et justement c'est ça qui ça fait plaisir en fait.
Ouais.
Tu vois, autant ils utilisent le harcèlement conjugal. Harcèlement conjugal, et c'est pas du tout dans quelque chose de trop malsain. C'est malsain, mais pas dans le sens trop banalisé en fait.
Non.
C'est quelque chose de... Et voilà, ça fait aussi partie des reproches du film qu'on va, on va en parler après. Parce qu'on a quand même des choses à dire, surtout le reste, mine de rien. Et d'ailleurs, je peux juste deux secondes, est-ce que tu peux juste sortir l'émetteur?
Oui.
Que tu as, parce que j'ai quand même des petits bruits de transmission, et je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient du... Ouais, alors ce que je t'ai demandé, c'est de faire un émetteur, tu le mets dans la poche extérieure. En
fait. Ah, arrêt au stand. Voilà. Reprise de la course.
Voilà. Sortir le fil. Bon, t'en fous.
C'est bon.
Je crois que t'es froid.
Pas que j'ai froid. Il y a un virus qui traîne en ce moment.
C'est une saloperie. Pente,
ce que c'est. Non, pente.
Non, fais pas ça. Non.
Ah oui,
voilà. T'as le micro. Et donc, ouais, non, ça fait plaisir parce que je t'avoue que moi, j'ai pas vu le trailer, je m'attendais à rien.
Ouais.
On en a parlé ce matin, tu m'as dit, ah tiens, Invisible Man. J'ai dit ok, banco. Dès le début, je me suis rendu compte que c'était pas un film classique dans la tournure de ce que j'attendais du Carpenter, de l'homme invisible de Carpenter.
Quand tu l'as vu ce soir, là, quand tu as commencé à le voir, tu veux dire d'accord,
tout de suite,
t'as rien lu non plus.
Dès le titre du film, je me dis ok, ça va être autre chose en fait. Tu le sens tout de suite.
Ouais.
Tu le sens tout de suite en fait. Et dès le début, je me dis bah tiens, est-ce que où il y aura le côté vieux scientifique fou qu'on a avec Chevy Chase, ou qu'on a dans le film de James Whale de 33, où t'as ce côté vraiment de scientifique fou.
Alors on a l'équipe des Gentlemen extraordinaires avec Sean Connery.
The Boys aussi dans Amazon, sur la série d'Amazon The Boys, t'as l'homme invisible aussi.
Ah oui, lui, il a pris le côté trou du cul.
Oui, trou du cul. Ouais. Et surtout aussi Holoman. Et c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est que. Alors je trouve que ça ne va pas. Ça ne rejoint pas la puissance de Holoman, parce que mine de rien, Holoman, même si j'avais pas trop aimé la première fois que je l'avais vu au cinéma en 98, et je l'ai revu quelques années plus tard, et j'avais trouvé ça génial.
Ouais.
Et que justement, la folie, on va dire, de l'homme, de l'invisibilité, enfin, c'est l'invisibilité
Qui
rend fou, qui pousse l'homme à la folie, le scientifique fou.
Ils ont quand même déjà un côté fou à l'origine.
Oui, donc là, oui, clairement, mais c'est ce côté un peu scientifique, un peu taré. Mais là, effectivement, le mec, il est taré dès le départ.
Ouais, là, c'est. Bon, on le voit pas, mais on nous le fait comprendre en tout cas.
C'est
ça que je trouve bien, c'est qu'on ne le voit pas, à part cette scène violente, mais bon, non, ça s'excuse pas. Effectivement, il est taré, mais
on comprend très vite qu'il est taré en fait.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant dans cette relecture. Et j'aime bien cette...
Ah, c'était de Verhoeven, excuse-moi, je te coupe.
Oui, de Verhoeven,
j'avais complètement zappé.
C'est ce que j'ai dit, hein, je crois, non enfin,
je sais plus si tu l'as dit.
Bref, c'est pas grave. Et avec Kevin Bacon, qui était, je trouve, très très juste, qui jouait dans la folie, qui jouait dans la perversion de ce homme invisible qui, tout de suite, passe du côté pervers, mater des gonzesses.
C'est Elisabeth Chou qui joue dedans, non?
Elisabeth Chou, tout à fait. Ouais. Et puis toute cette bataille finale qui, au final, malheureusement, était desservie par les effets spéciaux de l'époque qui n'étaient pas, justice la mise en scène de
T'avais quand même Matrix qui était sorti l'année d'avant. Hein, donc,
C'est 98.
C'est 2000.
C'est 2000 hein.
Ouais, Holoman, c'est 2000. Donc,
Je me suis planté. Ouais. Oui, donc effectivement, mais bon, après, Matrix, c'est encore autre chose, c'est un OVNI, tu vois. On est d'accord, mais
on parle d'excellence en la matière à l'époque.
Oui, voilà.
C'est clair, non, c'est clair.
Et donc.
Il y a là, aussi la menace fantôme qui était sortie.
C'est de non, pas
fort. J'aime pas te couper là.
Non, c'est vrai. Des fois, je vais me couper, j'ai des conneries.
Des grosses conneries. Moi alors. Je te coupe pour dire des conneries.
Oui, exactement. qu'est-ce que je veux dire d'autre? Tout simplement que ça fait plaisir de voir un petit film moyen. C'est ce que je disais à la fin de la séance.
Comment vous l'appelez?
C'est la théorie du film du milieu.
Ouais, voilà.
Où en fait, c'est qu'à l'arrivée des gros producteurs des chaînes de télé de type TF1, ça c'est par rapport au cinéma français, et ça peut se mettre maintenant par rapport à Disney, c'est qu'en fait, on ne fait plus un film moyen. C'est-à-dire que maintenant, on mise tout sur un acteur. Je vais prendre l'exemple Dubosc.
Ouais, Bankable,
qui fait que ça va marcher et que le film va faire un carton aussi le dimanche soir quand on va le diffuser à la télé. Et du coup, il y a une disparition des films à moyen budget. Et en fait, Netflix a repris un peu ce créneau-là
notamment ouais. grâce aux séries. Ça, on peut le voir notamment maintenant avec le budget de série qui est pas du tout digne d'un, enfin qui n'est pas au niveau d'un film normal maintenant, parce que les standards c'est 100 millions de dollars.
Ouais, putain, c'est clair.
Et là, un petit film à 8 millions de dollars fait déjà, tu m'avais dit les chiffres là, au box office, fait
quoi? Là, il est déjà à 50 millions à son premier week-end.
À son premier week-end, donc c'est vachement bien. Ah, non, donc du coup, le mec, donc Blumhouse, et c'est ça tout le modèle du film d'horreur intrinsèque qu'on connaît depuis les films de la Hammer, mm-hmm. c'est des films pas chers, qui sont inventifs et qui rapportent beaucoup d'argent. Ouais. C'est tout le cinéma d'horreur, c'est basé entièrement là-dessus. Tous les années 80 et à partir des années 60 avec les films de la Hammer, se sont basés complètement là-dessus.
D'ailleurs, je crois que Candyman est à une participation avec la Hammer.
Ah, parce que Hammer est revenu depuis quelques années. Hammer revient depuis avec la Dame en Noir, avec The Wolfman il y a quelques années.
Ah oui, ils avaient essayé quoi, Tom Cruise là. Non, c'était
la franchise de la momie.
La franchise de la... Oui, voilà, c'est ça.
Et
c'est
Tom Cruise, ouais, tout à fait.
Avec Tom Cruise. Et mais oui, c'est comme tu dis, effectivement.
Et donc ça fait plaisir de revoir ces films-là à l'affiche, qui n'ont pas forcément un budget de dingue, qui tiennent justement sur un nom célèbre, parce que mine de rien, Amos, est quand même méga connu. Après, c'est pas la méga star, c'est pas, tu vois, le niveau de
Scar Johnson,
ni Jennifer Lawrence, mais c'est ce niveau-là, de quand même, elle est très appréciée d'un bon retour public.
Je pense que c'est une actrice, justement, qui elle a son public et qui va l'attirer, même si tu vois, si ça les sort de leur zone de film.
C'est un public assez autorial.
Ouais, mais justement, je pense que ça peut être... Ça, elle peut pousser ses... Elle peut... Je pense que de son jeu et de son de ce qu'elle attire, quoi, en fait, les gens qui sont pas attirés par le film viendraient la voir pour elle, tu vois. C'est très intéressant de créer.
Ouais, mais après, je veux dire, c'est pas non plus la meilleure prestation d'Elisabeth Moss que j'ai vu de ma vie, tu vois.
Non, moi je suis fan absolu de Anne Mestel et du coup, oui.
Tu vois, quand tu vois le niveau, tu vois, parce que le réalisateur, ok, ça reste comme un réalisateur de la franchise Saw et c'est un pote de James Wan.
C'est un film de genre, et c'est un gars du genre.
En fait, ils essaient ce que Blumhouse essaie de faire, ce qu'on appelle maintenant le elevated genre. C'est-à-dire, en fait, le film d'horreur un peu plus, à la Get Out, à la Hereditary.
Non, Hereditary, c'est pas
mais c'est classé dans ce qu'on appelle le Levitt.
Ah oui, d'accord, ok, oui, je croyais que tu parlais de Blum par rapport à ça.
Les films d'horreur un peu plus, tu vois.
Oui, d'accord, ok. Oui, non, c'est clair, il y en a. Maintenant, on est vraiment poussé à ça. Et c'est pas Ariast.
Et puis les Mandy ici, et la couleur de Outer Space qu'on a essayé de voir tous les deux et que c'était un gros échec.
Putain, il va falloir recommencer.
D'ailleurs, dès que j'ai les sous-titres, on se fera un show sur la couleur de l'espace. J'ai pas regardé encore s'il y avait les sous-titres.
T'as pas osé
Non. Mais à mon avis, ça va bientôt arriver parce qu'il va bientôt sortir en DVD.
Je me suis planté un Candyman, c'est pas.
C'est pas Blumhouse
C'est pas avec la Hammer.
Ah, c'est pas la Hammer, okay. Mais c'est Blumhouse.
Non.
Ah non plus. Bref.
Mais, ouais.
Mais bon. Donc, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur la vie générale de l'Invisible Man?
Agréablement surpris. Franchement, ça remplit bien le contrat. Après, jugement, je ne vais pas juger, mais si je devais d'ici quelques temps le revoir, je pense que ça ne me dérangerait pas de le regarder, de le revoir, parce que dans ce film, avec le principe de l'homme invisible, il y a moyen justement d'installer des choses, tu vois, dans ta mise en scène.
Ouais.
D'ailleurs, lui, il joue beaucoup là-dessus. Il est beaucoup sur des écrans super larges.
Mise en scène, je suis désolé, elle est pas quand même à ce niveau-là, tu vois. T'es pas sur un.
Non.
T'es pas sur un Hereditary ou Midsommar, tu vois.
Non, je suis d'accord, mais on sent que le mec il a envie de s'amuser avec ce qu'il a, quoi. Tu sais, il a son jouet l'homme invisible, et il a moyen de créer des situations complètement anxiogènes, alors que pourtant il prend des plans larges, tu sais, par exemple le plan de la cuisine ou la maison et tout ça, et pourtant t'es complètement enfermé.
Mais pour ça, parce que du coup, moi ça fait beaucoup penser aussi au Giallo, ce genre de cinéma italien des années 70.
Comment ça?
Alors le Giallo, c'est Dario Argento, c'est ce qu'on avait vu.
Oui, bien sûr, non, je vois, mais je veux dire.
L'oiseau et l'oiseau au plumage de cristal.
Ouais, qui était. Putain, il était pas mal celui-là.
Ah, l'oiseau au plumage de cristal, il est monstrueux. Et en fait, l'esthétique du Giallo, c'est en fait, c'est. Bon, après, t'as une esthétique un peu différente parce que c'est très type années 70 et t'as un côté où le tueur est très mis en avant. On voit les gants du tueur, on voit les mains du tueur, on voit souvent les gants en cuir du tueur et le tueur est présent de façon. Invisible mais visible.
Souvent on le voit à travers ses yeux d'ailleurs.
On trouve toujours des meurtres à travers ses yeux, alors que là l'homme invisible est vraiment une menace, c'est con de le dire, mais invisible, mais dans le sens que elle n'est pas personnifiée à chaque moment. Tu l'as des moments où effectivement t'as le cadre, il reste le cadre fixe sur un endroit qui est vide, où en fait qu'on te fait comprendre que bah, l'homme invisible il est juste derrière et puis qu'il regarde silencieusement.
Peut-être pas, hein. Attends,
c'était le gros lol, mais
l'autre.
Mais dans le sens que tu vois, il joue sur sa mise en scène que sur cet effet là. Il ne fait pas plus, tu vois, sur un POV, un point de vue, tu vois, du point of view du tueur qui va aller stressé. On est toujours du point de vue de la victime. Ouais. Et en fait, le Diallo, lui, il prend en compte les deux points de vue. Et souvent, il esthétise beaucoup plus le point de vue du tueur que le point de vue de la victime.
Ouais.
Et souvent, les victimes, ce sont des femmes. Et du coup, le meurtre de ces femmes est esthétisé. Alors que là, t'as pas du tout d'esthétisation de la violence.
Non, pas du tout.
Là,
c'est du brut. Hein.
Les seules esthétisations, c'est sur les plans de ville, qui au final, j'essayais de rattacher à des choses, tu vois, sur des patterns, tu vois, sur des motifs de San Francisco vue du ciel en drone, mais qui au fait au final ne raconte rien. Et j'étais très déçu parce que ces plans n'apportaient rien. C'était juste gratuit.
Ouais.
Je trouvais.
On passait à côté. Moi aussi, ça m'a pas parlé non plus.
Et c'est dommage parce qu'ils sont magnifiques. Mais ils essaient d'instaurer une dialectique dialogue, mais qui ne fonctionne pas. Et
ouais, pour ça, tu le vois comme ça.
Ouais, moi je l'ai senti comme ça parce que j'ai revu récemment, je crois que j'avais parlé, Clout de Alan Pakula avec Donald Sutherland et Jane Fonda, la mère, et qui est juste hallucinant. C'est un dialogue à l'américaine qui juste
marche à fond, quoi.
Qui fonctionne et qui a un esthétisme au niveau de la ville de New York des années 70. Mais putain, mais les bâtiments, toute l'architecture a une vraie, je veux dire,
entité
et un véritable esthétisme qui apporte quelque chose à l'ambiance du film.
Un peu quoi, genre un peu un Taxi Driver de Scorsese, par exemple.
Non, parce que là, t'es sur des choses.
C'est un personnage, quoi.
Non, parce que t'as des choses très géométriques dans Clout.
D'accord, ok.
T'as les choses, des points de vue, des plans très esthétiques qui jouent sur la géométrie. Et en fait, sur l'espèce de labyrinthe qui perd les personnages dans ce meurtrier qui les poursuit. Poursuit Jane Fonda qui harcèle Jane Fonda.
D'accord.
Mais et là, tu reçois pas du tout ce côté où le fait que la menace de l'invisibilité, elle peut être là à n'importe quel moment. Tu le sens pas. Tu sens toujours que t'es toujours du point de vue d'Elizabeth Moss et de son histoire personnelle.
Ah, non, c'est...
Et du coup, t'as un cas particulier et du coup, tu oublies le général que t'avais pas avec Verhoeven dans Holloman. Même si Holloman, il y avait une vengeance. C'était une vengeance, c'est pas pareil. Là, c'est la manipulation, c'est pas la vengeance.
Oui, il y a un côté vengeance, mais qui se transforme très rapidement en du sadisme et de la manipulation.
Voilà,
totale. C'est clair. C'est du sadisme pur et dur, quoi. On a un pervers narcissique en face, complètement fou, quoi. Mais d'ailleurs, là, on a un peu trop parlé, je pense.
Non, ça va.
Ouais, mais je veux dire par rapport au spoil.
Non, parce que je te doute qu'il a. Je pense, chers auditeurs, que tu te doutes que le mec, il est. Voilà, si vous avez un peu vu des trucs. Voilà. Et je pense pas que ça nuise à
l'histoire après.
À l'histoire et au plaisir de regarder le film.
Ouais, moi je pense que là-dessus, effectivement, on peut apprécier le film sans avoir effectivement tout ce qui rattache normalement à l'original et au mythe de l'homme invisible. Là, c'est vrai qu'on s'en éloigne beaucoup. C'est limite un prétexte, quoi. L'invisibilité, c'est un prétexte.
Vous parlez d'un problème sociétal.
Ouais,
est-ce qu'il est le propre de toute forme de film d'horreur? Mais est-ce que c'est. Ça va pas trop loin, non, je trouve que au final, je fais les questions, les réponses en même temps, tu vois.
Même pas le temps de répondre, putain, quoi.
Mais justement, tu crois pas que c'est. Fin...
Il serait temps d'aller manger.
Oui, il serait temps d'aller manger.
Parce que tout
mais ouais, bah écoute, on peut finir la discussion pendant qu'on commande. on va vous éviter les bruits de bouche.
Donc voilà.
Ah, c'était bien bon. Ah,
c'était bien bon. On
bien
vient
manger.
De sortir du Burger King. Tiens.
Ah, mon bœuf bourguignon était magnifique. Bonne petite sauce là aux carottes.
Oh. Et du feu, c'est bon?
Oui, j'ai du feu.
Donc maintenant, on passe à la partie spoiler de The Invisible One.
Spoiler, faites gaffe, il est invisible. Putain, il est invisible, mec, c'est pas vrai.
Okay, ben voilà.
En fait, on croit qu'il est pas là, et en fait, il est là. C'est incroyable.
Tu veux juste reprendre ça?
Oui, ah oui, putain, c'est bien.
Non, mais quand ça se tient.
Ouais.
Et voilà, du coup... Ne perds pas.
Ouais, non. Du coup, pour reprendre le début du film, on me disait que...
Bah, de toute façon, maintenant on peut y aller sans vergogne sur... Qu'est-ce que t'as apprécié dans cette façon d'être invisible?
Bah, justement, Alors, sur l'aspect et tout ça, c'est pas ça dont je parlais, c'est plutôt l'approche. Et du coup, le prétexte. Mieux?
d'accord. C'est comme ça que ça fait mieux. Ouais, c'est... Ah, vas-y, mignon. Ouais, vas-y.
Dans 10 minutes, on se fait un bisou.
je dirais juste le code, c'est pour ça, en fait.
Non, c'est le fait que... oui, c'est pas le sujet principal, en fait, l'invisibilité. Attends, ça reste un prétexte. Ça va être mieux. Ah, oui. Toi, ça va aller, toi?
Non, c'est bon, quand
ça. Ça, je te couvre. D'accord. Non, c'est que c'est un prétexte, en fait.
Ouais.
C'est pas vraiment ça. Enfin, si l'invisibilité est au cœur, effectivement, ouais, du truc, mais c'est... Comme tu peux en parler, justement, dans la partie non-spoiler, c'est... C'est pas le sens. Dans tous les autres films, effectivement, c'est un chercheur qui découvre une sorte de potion pour devenir invisible. Ouais. Et après, il est recherché, il l'applique sur lui-même, classique, quoi. Donc là, on a encore les mêmes archétypes. C'est le créateur qui le met sur lui-même. Sauf que là, effectivement, on est sur le côté, le parti pris de la victime. Et parce qu'il y a toujours une victime. Ça, par contre, il y a toujours une victime. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Moi, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié au point de me laisser emporter, justement, par Elizabeth Moss, parce que je pense aussi que j'aime bien son personnage. C'est un personnage qu'elle tient, quoi, qu'elle tient depuis qu'elle est dans les séries et tout, une femme forte qui n'hésite pas à combattre ce qui peut la persécuter, quoi, ce qui peut lui faire mal.
Mais cet aspect est génial, en fait.
Ouais,
cet aspect est vachement intéressant et ça change, ça fait plaisir, tu vois, ça change d'avoir ce côté-là. Après, par rapport à la technique, tu vois, pure et dure de qu'est-ce qui les rend invisibles, moi, j'avoue que j'étais déçu.
Ah ouais?
Ah oui, clairement.
Toi, t'aurais préféré la seringue, hein,
mais oui,
ce qu'on injecte dans le sang, que ça vienne de l'intérieur et pas de l'extérieur.
Voilà, c'est ça. Et que c'est pas, alors, spoil, c'est donc le mec, le manipulateur sociopathe.
Donc le mari pervers narcissique, effectivement.
Lui, il est vraiment, en fait, il est opticien, enfin, pas opticien, il bosse dans l'optique.
Bosse chez Afflelou.
Ouais, il bosse chez Afflelou.
Mais il a un bon poste, hein. Le mec, il travaille pas le samedi ni le dimanche, tu vois. C'est le mec, il a...
C'est le tech entrepreneur, quoi.
Voilà, il a vraiment...
La Silicon Valley,
il a pu savoir, avec ses tickets resto, il s'est acheté une belle maison, avec ses écochèques, une belle maison à la plage. Enfin, franchement,
pas mal du tout, quoi.
Il est balèze, le mec.
Et donc, en fait, il s'est construit une cape d'invisibilité, quoi, en fait. C'est vraiment une cape d'invisibilité à l'Harry Potter. Donc c'est ça qui
un costume, ouais.
Un costume. Et moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que justement, on perd le côté savant fou, en fait. Enfin, le savant fou, tu l'as, mais tu vois à aucun moment programmer des choses.
Elle est un peu folle quand même, sa combinaison. Avec toutes ces mini-caméras, c'est un peu...
C'est vraiment ça le device, c'est que c'est plein de mini-caméras qui renvoient l'image autour.
Ouais. L'idée est pas mauvaise, moi, je trouve.
L'idée est pas mal, tu vois, donc l'arrière est renvoyé sur l'avant et vice-versa. Mais je trouve qu'au moins que le côté dans la bulle, tu vois, enfin, le côté laboratoire, en fait, les côtés un peu informatiques, des recherches, en fait, tout le côté recherche qu'on a dans Holoman et dans Chevy Chase, enfin,
avec celui de Carpenter, ouais.
Les aventures de l'invisible avec Chevy Chase. Donc, tu vois, c'est ce côté-ci qui, moi, me manquait, l'histoire originelle. Et du coup, je trouve que ce beau côté horrifique, c'est vachement intéressant de se baser uniquement sur le point de vue de la victime, mais ce côté un peu plus fantastique. On perd, en fait. On gagne en horreur, ce qu'on perd en fantastique.
Thriller, horreur, ouais, effectivement. Ouais. On vient beaucoup plus là-dessus. Parce qu'effectivement, pendant tout le film, du coup, alors qu'on apprend que le mari, le pervers narcissique qui maltraitait Elizabeth Moss, la raison pour laquelle elle s'est barrée d'ailleurs, chez sa sœur, avec l'aide de sa sœur, se suicide, donc il est censé être mort. Mais là, les gens qui l'accueillent dans cette maison, il lui arrive en fait des phénomènes
un peu mystérieux. Et c'est amené petit à petit de façon assez subtile, heureusement.
Ouais, au début, ouais.
Heureusement, tu vois, genre, t'as un moment.
Mais tu t'y attends justement avec tous ces plans-là, je te dis.
Oui. Mais franchement, c'est quand même bien amené. Je dois dire que les petits effets, par exemple, quand elle cuisine et tu vois le couteau qui reste en place et qui tombe pas.
Enfin non, si on le voit disparaître, on le voit tomber, mais on l'entend pas tomber.
Qui disparaît, voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est des petits effets mis en scène.
Petites nouvelles idées, ouais, un petit truc comme ça, effectivement. C'est pas mal aussi. Moi, j'ai bien aimé aussi le principe du téléphone portable.
Oui.
En fait, tu te rends compte que le mec, il est là depuis un petit moment et qu'il stocke des choses dans le grenier.
Et qu'il stocke aussi des choses parce qu'il lui fait disparaître des choses et il fait disparaître des trucs. Parce que justement, là, un entretien d'embauche, et puis les documents qu'il veut présenter, ils disparaissent magiquement. Et en fait, toutes ces constructions sont intéressantes dans le récit. Mais je trouve que, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que le moment où tout se retourne contre elle, où justement tout le monde est contre elle parce que personne ne la croit, parce qu'elle n'arrive pas à prouver que l'homme invisible la poursuit. Et moi, c'est ça qui m'a gêné, c'est que cette partie-là, elle aurait dû prendre beaucoup plus le pli sur tout le reste
de l'ascendant. C'est là-dessus qu'ils auraient dû plus jouer, ouais.
De faire un contre, de faire un mélange de genre, un crossover total, plus social, parce que mine de rien, le sujet est très social, et pas juste être une référence, très tu vois. C'est très, très contemporain, c'est trop contemporain, c'est très, et trop contemporain des moments, parce qu'on perd le côté fantastique, en fait, de l'histoire.
Complètement. On revient plus sur un thriller psychologique à fond, quoi.
Moi, ça m'a fait penser à Gothica de Kassovitz.
Ah oui, bah, sur la folie, effectivement, même, parce que c'est... Ouais, c'est vrai, c'est marrant, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah, il y a vrai. 2 mois, je crois. Et au Danemark, donc non, il y a 4 mois. Et en danois. En anglais, c'est du très danois.
Donc, ça va. C'est encore mieux, ça.
C'est encore mieux. C'est perturbant, en fait, parce que t'as les yeux qui sont constamment attirés vers le sous-titre. Oui. T'es là, mais non, putain, je comprends rien, merde, laisse tomber, putain.
Ça va pas, quoi.
Et non, oui, c'est vrai que ce côté-là, c'est bien amené, mais c'est trop court, effectivement. Il y joue là-dessus et on aurait espéré qu'il y joue plus.
Voilà, tu avais une matière. Le côté. Je trouve que tu avais plus de matière à exploiter sur cet aspect-là.
Ouais.
Et jouer sur ça, sur sa détresse et le fait qu'encore plus on puisse la prendre pour une folle, que justement on puisse mettre en doute sa parole alors que c'est sa parole de victime. C'est ça qui aurait été vraiment, vraiment très intéressant, je trouve, dans.
Ça aurait été un film plus long et ça serait plus un film de production. Ça aurait été plus un film de production de Blumhouse. C'est comme ce dont on parlait tout à l'heure, les productions de Blumhouse, souvent c'est des films à twist.
Oui.
Donc il doit y avoir un twist. Donc ce côté-là, tu peux pas y rester. Il faut.
Et justement, alors, et ce mari, comment tu as trouvé ce mari, tu vois? Parce que moi, il m'a pas hyper convaincu au niveau du jeu d'acteur.
À la fin? Alors, parce que c'est à la fin qu'on le voit, en fait. Au début, on le voit trop peu pour pouvoir juger. Et après, bah, on est inexistant. Après, hein. C'est
il a
que la supposition.
En fait,
ouais. Si on peut juger un homme invisible, excellent.
Mais tu vois, Kevin Bacon, on peut le juger, quoi.
Ouais, mais parce qu'il avait aussi ce principe des bandages. Lui, il utilisait le principe des bandages aussi.
Oui, pour qu'on le voit sans
qu'on le voit. Pas. Donc, il y avait ce mimétisme de l'acteur et tout ça. Mais non, là, effectivement, on ne voit rien. On l'entend juste dire surprise.
Ouais, surprise.
Préparation simplement.
Mais oui, complètement. Et c'est vrai que et je trouve que les pay-in et les pay-off sont assez grossiers, je trouve aussi.
Ouais, l'escabelle. Donc l'escabelle pour les Français, c'est un escabeau. Hein.
Oui, voilà.
C'est une grosse échelle. Et non, le couteau, ça c'est aussi le truc aussi. Je serais bien amené parce qu'effectivement, on le voit stocker. On voit stocker les trucs. Ça, c'est Bruxelles. Ça, c'est, on voit stocker des trucs dans la cave, enfin on le devine, et en fait elle trouve un couteau, et c'est vrai que tu tiques pas, c'est le couteau qui a été récupéré, mais qui va servir après, effectivement,
pour tuer sa sœur.
Tuer la sœur qui, putain, la mort que tu... Moi, je l'avais pas vu venir.
Non, pareil, elle m'a surpris, surtout qu'elle était amenée... Enfin, tu sens que le mec, il manipule totalement la situation, puisque, justement, il prévoit avec... Il y a un mail de Discord entre les deux sœurs.
Il recrée en fait ce qu'il vivait avec elle en couple, c'est un isolement total.
Totalement,
il est complètement en train de l'isoler.
Mais
je trouve que
c'est pas du tout bien mis dans les circonstances, dans les nouvelles circonstances de l'invisibilité.
Après.
Tu vois, au fur et à mesure. Cet enfermement, on le subit, on subit plus qu'on est actif et on y prend part, tu vois. Je pense que
ouais,
c'est ça.
On est comme elle, du coup, parce qu'elle aussi, elle le subit.
Parce que justement,
elle peut plus rien faire, elle.
Nous, en tant que spectateurs, justement, on reste sur ce point de vue, spectateur, on n'est pas impliqué à aucun moment. J'ai eu de l'empathie, j'ai eu beaucoup d'empathie au début du film, mais quand on a commencé à l'accuser à tort, j'ai vu les grosses ficelles apparaître, et j'ai eu plus du coup d'empathie. Je me dis, bon, ok, il y aura le moment, il y aura la résolution, tu vois.
Ouais, d'accord.
Forcément, il y aura la résolution, c'est obligatoire.
Ça, c'est vrai que c'est le genre de film, tu sais qu'il va se passer quelque chose, que la situation va revenir
tu,
dans.
Tu veux qu'on aille voir s'il n'y a pas un tabac ouvert?
Ah, on peut marcher, ouais.
Juste là comme ça, puis après on peut continuer aussi la critique.
Exact, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant,
oui,
ça.
Clairement, on peut tout à fait le faire.
Sans que les gens devinent qu'on est en train de faire ça. Oh, est-ce qu'on serait pas un petit peu invisible au vu des gens?
Si, complètement.
Le podcast invisible.
Mais attends, après du coup, moi je suis aussi en trop bien.
Ouais, mais moi je peux le prendre là aussi, hein, comme toi.
Ouais.
Juste faire gaffe à l'heure, quoi. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un bureau de tabac ici?
Juste après le bunker.
Ah, mais exact, t'as raison.
Juste après le bunker, il y en a un.
Non, mais effectivement, on arrive trop vite à ce passage de la cave, qui du coup après, ça découle complètement sur la folie, quoi.
Parce qu'en fait, dans la cave, elle va retourner chez elle,
C'est surtout là aussi la première fois qu'on voit L'homme invisible.
Oui.
Du coup, son mari, un spoiler.
Et du coup, oui, parce qu'en fait, elle va revenir chez elle parce que ce film, il faut chasser. Il y a une grande scène, justement. D'ailleurs, qui est un peu nul, où c'est de la première vraie confrontation entre l'homme invisible et Elisabeth Moss.
Ouais.
Et je trouve que c'est un peu nul parce que.
Dans la cuisine, là
dans la cuisine, et aussi par rapport, tu vois, au fait, pourquoi elle se retrouve seule dans la maison où l'homme invisible baffe, en fait, là. Parce qu'elle est hébergée chez un pote de sa sœur, qui a une petite fille.
Ouais, oui, c'est ce qu'on comprend, ouais, effectivement, qui a une fille, ouais.
Et du coup, il y a un côté où. C'est un peu artificiel la façon dont elle se retrouve seule, tu vois, dans cette maison.
La raison pour laquelle elle se retrouve seule, c'est quoi? C'est qu'elle a frappé, la fille de son ami, quoi.
Voilà.
Donc le mec l'emmène dans un lieu sûr. Enfin, je sais pas, moi j'aurais réagi différemment, c'est plutôt casse-toi. Oui. Je reste dans ma maison et casse-toi. Ouais, ah voilà. Non, quand elle saignait, donc peut-être qu'il l'emmène aux urgences ou un truc comme ça. Alors.
Oui, peut-être, mais saigner vite fait.
Ouais.
Mais du coup, voilà. Et après, elle s'enfuit, elle retourne dans sa maison.
La maison de son mari.
Et la maison de son mari, qui en fait c'est une super belle maison, vraiment, enfin, comme disait design.
Ah ouais, sur Imo Web, c'est au moins. Oh ouais, au moins. Je sais pas, 20 millions, 30 millions, 40 millions une maison comme ça.
Ah ouais, elle est bien tapée, quoi. Et là, on découvre enfin la combinaison de l'homme invisible.
Ouais. Elle est maline, hein, quand même, pour réussir à trouver le truc. Hein.
Oui, avec l'iPad caché sur le côté.
C'est clair.
Désactive le bazar.
Moi, j'aurais pas capté.
Mais du coup, et en fait, et elle cache, en fait, elle vole cette deuxième combinaison qu'elle cache, qui va servir. Et en fait, on sait tout de suite, quand on voit caché, on sait que ça va nous servir quelque chose dans le récit.
Ouais, mais ça, pour moi, le mec l'a vu. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce twist-là, à la fin, il marche pas. Pour moi, il l'a vu planquer le truc.
Non, parce que. Non, il a capté sa présence, mais il l'a pas vu.
Ouais, mais pour moi, il aurait pu être là. Ah, ouais, mais non, c'est vrai qu'il l'a pas vu. Non, il l'a pas vu. Oui, il l'a pas vu.
Parce qu'il faut du temps qu'il revienne à la maison. Parce la maison, elle est loin de là où elle était cachée.
Vrai, il l'a pas vu. Ouais, non, effectivement, maintenant que j'y repense, oui, c'est vrai.
Ok, bah, écoute, on va aller là pour.
Pour les cigarettes.
Ouais, nous en entrons.
Moi, je suis
ravi,
moi. Comment on y a? Moi, je suis en prière.
Ça va?
Bonsoir. C'est pour reprendre un paquet de tabac roulé, le Lucky Strike authentique rouge, si vous l'avez. Ouais. Et par carte.
Ça.
Tu veux quelque chose?
Moi, je prends un petit Camel jaune, mais je vais payer en liquide.
Camel jaune, bro, si j'ai froid.
Non, c'est bon, je vais payer les deux, t'inquiète.
Ok, c'est gentil.
Camel jaune,
garde
une.
Ah, ok.
Mais sans, il y en a?
Non, c'est paquet de cigarettes, pardon.
Camel,
ouais.
Alors, tu veux quoi? Ouais, tu veux un bébé qui fume? Tu veux un poumon qui éclate?
Mais c'est gentil.
Les deux, je paye les deux.
Et par contre, tu vois, dans le mari violent, moi j'ai préféré la version de Big Little Lies.
Oui, tu en parlais avec Jérémy. Moi j'ai pas vu cette série.
Écoute, elle est super bien. Enfin, la première saison que j'ai vue, elle est super bien. Et je trouve que là, le charisme de l'acteur fait que bah, tu sais que c'est un gros fils de pute dès le départ. Quoi.
Ouais, mais ça marche pas, lui. Hein.
Lui, non, ça marche pas. Mais d'accord, c'est pas super ça.
À part Elisabeth Moss, ouais, franchement, alors ouais. Et pour reciter Jérémy aussi tout à l'heure, les flics à l'hôpital, gros jeu d'acteur.
Oui, parce qu'il y a forcément un passage obligé par la case hôpital psychiatrique.
Ouais, exact.
Ça, c'est
donc elle est vraiment,
ça,
elle c'est devient vraiment folle aux yeux de tous les gens, puisqu'elle est censée avoir tué sa sœur au restaurant avec un big couteau de boucher. Quoi.
Alors qu'en fait, c'est l'homme invisible qui, lui, était juste à côté et prend le couteau et défonce.
Défonce, c'est clair. Il le met dans la main et défonce. Ce qui sera en fait. Au final, cette scène-là aussi une sorte de préparation paiement. Hein.
Mais oui, clairement.
Exact.
Mais
donc du coup, elle est envoyée à l'hôpital psy, parce qu'elle est complètement chitardée, quoi.
Ouais, et pareil, l'hôpital psy, c'est aussi décevant comme séquence, parce que t'aurais tellement aimé qu'elle soit vraiment encore plus incomprise et qu'elle soit encore plus
folle.
Prise pour une tarée, quoi. Mais c'est très policier, en fait. Ça va très vite.
ça reste, oui, là encore, ben parce que, et là je vais encore revenir sur la situation des productions Blumhouse, mais ça c'est le principe de leur film.
Ouais.
C'est, on n'a pas d'histoire, mais on a une fin.
Ouais.
On a une fin, ouais, on a un twist, on a quelque chose, on a un peu, ouais, c'est un peu le schéma, la Shyamalan. Mais il nous faudrait quelqu'un qui puisse, de ça, créer une histoire, nous raconter une histoire qui en arrive à ça. Et qui puisait, si, tant mieux est, si c'est original et qu'on a, voilà. Et Blumhouse, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de scénar, j'ai l'impression, au départ, quoi. C'est plutôt, on a une idée.
Ouais, et puis on...
Mais une idée finale, quoi. Un twist qui va mettre tout le monde sur le, oh, ouais, putain, d'accord, ok. Et maintenant, il faut l'enrober et on verra bien, enfin, on trouve un truc, quoi. Voilà. Du coup, ça amène ça, quoi. Ça amène que t'as des films qui abordent des sujets intéressant et qui des fois partent dans des directions super intéressantes, mais qui du coup de leur finalité sont obligés de prendre des voies de raccourci ou des facilités de d'arriver à quelque chose. Oui.
Bien sûr.
Ouais, bien sûr.
C'est bon, tu as... Ah non. C'est...
Non, moi j'ai le mien.
Merci. Non, mais je pensais que c'était à proximité, plus à proximité.
Merci beaucoup. Parce que
ça et du coup, moi c'est ça qui me fait chier dans ce genre de film. J'apprécie avec une petite pointe de déception quand même, parce que en parlant là maintenant, effectivement, il y a différentes choses qui auraient pu être plus exploitées, mieux exploitées.
C'est un bon petit film en fait.
C'est un bon
c'est
petit
pas
film.
C'est plus que ouais. Ça en fait, c'est juste un bon petit film.
Ouais, ouais, bah. Au final, les effets spéciaux sont. Il n'y en a pas non plus énormément. Et non, c'est ouais. Pas. Par contre, il déchire pas. Hein. Le mec, quand il est avec sa combinaison et qu'on le découvre.
Par contre, ça ouais. Fait un peu. Non, elle est désappointante. Et moi, ce qui m'a déçu aussi, c'est la. Ils font tout un moment un pataquès sur le fait qu'il va pleuvoir à San Francisco. Ouais. Et qu'au final, tu te rends compte que. Mais je m'attendais à ce que, bah, effectivement, la pluie puisse griller l'homme invisible, qu'il ouais. Puisse faire en sorte que ça soit.
Le classique. Hein,
le classique, tu vois. Et qu'en fait, au final, bah, c'est pas du tout mieux. Pas du tout exploité.
Bah, du coup, c'est un petit détournement de la part du réalisateur, quoi, qui veut t'amener vers quelque chose en te faisant comprendre ça, en te montrant
c'est
ça.
C'est grossier, parce que justement, ils en parlent tellement, parce qu'en fait, tu l'entends par je sais plus parler. Moi.
Présence ?
Non, par la télé dans l'hôpital psychiatrique où tu vois une présentatrice météo qui n'arrête pas d'insister sur le fait qu'il va pleuvoir.
Ah oui,
et
d'accord.
Et à ce moment-là, Elisabeth Moss regarde en disant « Ah ouais, j'ai trouvé une idée. » Et qu'en fait, cette idée n'est jamais exploitée. Et que, alors, tu vois, tu dis que c'est peut-être, effectivement, ça peut être une fausse piste mise explicitement par le
réal. Ouais.
Mais non, je crois pas, je pense que...
Ouais, tu penses pas ?
C'est peut-être des pistes qui ont été au départ et puis...
Et qu'il a complètement qu'il a coupé, quoi, en fait, peut-être. Qu'il a... ouais.
On peut continuer dans le tromé, hein.
On peut continuer à parler. Et du coup, oui, bah, elle décide de retourner dans cette maison, elle prend la confrontation, elle arrive à s'échapper encore.
Ouais.
Le mec du Uber, bon, nickel.
Ah oui, le coup du Uber, c'est...
Il n'est pas tué, lui, elle est au portail.
Non, il aurait pu, effectivement, ils auraient pu jouer sur le
fait qu'il soit devant la maison, il aurait pu tiquer le mec qui soit dans la maison.
Mais alors, d'où son mari violent, d'où les vieux. Attends, moi, j'ai compris. D'où il vient, en fait, à la maison, en fait. Par quel miracle, là.
Ah oui, exact. C'est clair.
Par quel miracle, tu vois, en fait. Par quel miracle il vient? Est-ce qu'il a une moto?
Il prend des voitures, ouais, il doit avoir, oui, certainement. Ouais. On a vu son garage au début du film, il a des grosses bagnoles et tout ça, ouais. Ça encore, c'est un truc qui peut facilement s'expliquer, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais.
Mais il y a des choses pas crédibles, en fait, qui sont juste là pour la crédibilité, enfin, qui ne fonctionnent pas avec la crédibilité.
Non, mais il y a des choses qui sont posées pour juste amener, comme le frère, en fait, le rôle du frangin.
Ouais, ah oui, le rôle du frangin, ouais.
Il est limite là pour te brouiller les pistes, mais en fait, pas du tout, il t'éclaircit la voie, en fait. À partir du moment où il arrive dans l'histoire, lui, tu captes que, ok, ils sont tous les deux de mèche, c'est clair. Le twist à la fin, que c'est voilà, nouveau twist, on va vous le dire, à la fin, quand elle s'échappe de l'asile psychiatrique, qu'il y a tout le monde qui se fait défoncer par l'homme invisible dans l'hôpital psychiatrique, qu'elle arrive à le tuer. On découvre que ce n'est pas, non, c'est pas l'hôpital psychiatrique qu'elle arrive à le tuer. Elle arrive à le tuer, où ça, déjà, à la maison.
Oui,
puisque lui a décidé d'aller
à la maison de son pote Black.
Parce que lui, maintenant, il va aller tuer toutes les personnes qu'elle aime. Vu qu'elle est enceinte. Ah oui, parce que la voilà aussi.
Ah oui, c'est
le... Donc, ouais, le frère qu'on avait zappé, complètement sous l'emprise du mari, quoi, qui est son frère, et complètement manipulé par lui. Et on apprend qu'elle est enceinte.
Et ça, je trouve que tout ce passage.
À l'hôpital psychiatrique, d'ailleurs, ouais.
Et tout ce passage où elle est enceinte, trouve ça fonctionne pas en fait. Il y a, ça n'apporte aucun enjeu. Tu
bah
vois.
Moi à partir de ce moment-là, elle devient intouchable. Elle ne risque plus rien. Elle ne risque plus rien.
Elle peut plus mourir, alors c'est clair.
Donc du coup, il y a une sorte de tension qui tombe.
C'est un enjeu qui saute quoi.
Ouais.
Attends. Il faut faire gaffe. Moi, je vais reprendre le. Je vais reprendre le Herman de Brou. Je prends le stocker là.
Ah oui, c'est vrai, tu prends pas le même que moi, toi.
Ouais. Ils vont au même endroit, hein, mais.
Mais.
C'est le même endroit, mais.
Non, mais juste pour. Ouais, pour. Et après, on clôturera ouais. Là-dessus, mais du coup, le fait qu'on apprenne qu'elles sont enceintes, effectivement, ça enlève quelque chose au film. Lui, on sent qu'il essaye de rediriger ça vers autre chose, du coup, et on voit très bien ce qu'il veut faire. Mais ça coupe le film pour moi.
Ouais, clairement, parce que c'est une information qui n'est pas exploitée, qui n'est pas utile en fait.
Non. Enfin, si, un petit peu en fait, non. C'est quand j'ai dit, elle l'exploite à fond.
Elle exploite dans le sens que t'as le. Elle exploitait comme un moyen de pression, tu vois, par rapport au mari violent. Mais au final, tu vois, il y a l'histoire du frère. Qui se met en place parce que du coup tu ça rebalance sur le fait que ce soit peut-être le frère le coupable.
Ouais.
Ça ne fonctionne plus en fait.
Non, ça casse quelque chose.
Ça casse quelque chose et du coup on n'est plus du tout dans quelque chose d'intéressant et de.
Parce que là encore twist sur twist. Quand le frère meurt, du coup la police intervient, on voit une force spéciale moi dans la maison. Marie. Et là qu'est-ce qu'on découvre?
Que le mari soi-disant séquestré.
Soi-disant séquestré effectivement dans la maison
par le frère. Et ça, c'est le premier twist du film, en fait. C'est le twist du film où, en fait,
il
fait
vivant,
croire qu'en fait, non, qu'il est vivant et que, bon, ça, on s'en doutait avec le côté l'homme invisible, mais qu'en fait, ce serait vraiment le frère qui serait le méchant et pas le mari.
Ah, tiens, maintenant que j'y pense, ça me refait penser à Gone Girl de Fincher.
Oui, c'est vrai.
Justement, à la fin, elle revient. Lui aussi, il revient. Ouais. Quoi, mais, enfin, Gone Girl ne finit pas de la même manière que Hollow Man, puisque dans l'homme invisible man. Puisque là, en fait, oui, le frère est vivant, enfin, le mari est vivant, il va mieux. Elle est complètement sur le cul, elle est persuadée que c'est lui, c'est clair et net, c'est impossible que ce soit le frangin. Et c'est clair que nous aussi, on y croit, vu tous les indices qu'il y a eu de semer pendant le film, c'est lui, c'est pas une autre personne. C'était un piège tendu à son frère pour qu'il y aille à sa place et se fasse buter. Enfin, le mec est hyper manipulateur. Là, ça en devient trop, quoi.
C'est ça, ce que tu dis, c'est devient trop.
Ça devient trop manipulation, tout s'embrique trop pour que ça marche exactement comme on veut que le film aille. Et ça, ça devient un petit peu dérangeant. Mais bon, Elisabeth Moss est toujours là quand même, elle tient la barre.
Ouais, on n'arrête pas de le dire, mais au final, c'est.
Elle organise une rencontre.
Ça fait en sorte que le film passe du statut de grosse bouse à film qui, mine de rien, vaut le coup. En fait. Non, mais sérieux, c'est ça, quoi. Ça vaut quand même le coup parce que du coup, il est.
Le personnage.
Le personnage est quand même intéressant, tu vois, et qui aurait dû être beaucoup plus, mais encore beaucoup plus exploité. Et c'est ça ma déception que j'ai par rapport à tous ces micro-trucs qu'on a dit, tu vois, et tout l'ensemble de ce qu'on a dit, et ces micro-détails de la mise en scène, c'est qu'au final, ils auraient pu aller beaucoup plus loin et faire que ce soit plus qu'un bon petit film, soit un putain de bon film. La revisite est intéressante, qu'effectivement, on a le côté technologique où c'est un suit, c'est pas du tout une potion.
Ouais.
Ça reste une bonne petite surprise.
Ouais, quand même pour finir sur le film.
Oui,
parce qu'on va tout spoiler, hein. C'est le but de la partie.
Mais donc, ouais, moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment le côté suit et pas le côté expérimentation. Et ce côté savant fou n'est pas assez mis en avant, je trouve.
Mais qu'est-ce que tu penses de ce final là, justement, où il organise la rencontre avec son mari, soi-disant mort.
Soi-disant, donc il y a une rencontre avec le mari. Non, juste que ça passe. Et donc, une fois que le mari est sauvé par la police, il y a une rencontre qui se fait entre Elisabeth Moss et son mari, qui passe pour la victime. Donc, elle prévoit le coup. Elle a un micro et le flic est.
Son ami flic redevient
croyant et compréhensif. Monitor le bazar et en fait en gros elle veut lui faire arracher les aveux
que
c'est lui finalement derrière tout ça. Lui joue très mal mais dit en gros que c'est pas lui.
Il est mauvais. Putain, toute cette partie à lui là jusqu'à la fin, mais il est mauvais.
Ça ne tient pas une seule seconde en fait. Et en fait au final là elle va revêtir la combinaison invisible et va le tuer en le faisant passer pour un suicide.
Mais ça on le sait.
Bah, on se doute.
On le sait pas là encore, c'est supposé, puisqu'elle va juste dans la salle de bain se remaquiller après avoir essayé de lui faire cracher les aveux. Lui a tout compris, il se doute à mort, donc il ne crache rien, mais il joue tellement mal que tu sens que le mec, il a quelque chose au fond du ventre qu'il a envie de dire, mais qu'il peut pas parce qu'il sait que s'il l'a dit, machin, il voudrait bien un peu... Tu sais, on sent qu'il voudrait bien jouer avec elle, mais il sait qu'il y a un piège. Donc il la manipule, elle pleure, elle craque, elle comprend que c'est foutu. En fait, elle pleure, mais... elle fait semblant de pleurer.
C'est pas ça. Donc ça, non, c'est pas bon.
Et du coup, elle décide d'aller se remaquiller. C'est trop marrant ce podcast. Coupé entre différents années de métro. Elle va se remaquiller et là, on la voit qui se retourne. Et genre, elle prend une grande bouffée d'inspiration. Et
on
ça
voit,
coupe.
On voit rien. Et peut, juste après, ça reprend où le mec qui est devant.
À table, tout seul, il l'attend. Voilà. Il est tout seul, tout va bien. Et puis, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il prend le couteau dans sa main, et il le lève au niveau de sa gorge.
Et,
et on sent qu'il essaie de se retenir. Enfin, on sent qu'il y a un truc qui le pousse et que lui, il ne veut pas le faire. Quoi. Et là, il se coupe la gorge. Ouais. Se tranche la gorge.
Et après, la fin arrive avec le.
Mais là, encore un petit jeu. Hein, le,
ça, ouais, mais est-ce que je suis pas sûr que. Tu vois, je suis pas sûr arrive. Que ce twist. Ce énième twist vient. En fait, c'est le truc en plus, tu vois. Ouais. Qui encore... En fait, le problème, évidemment, c'est que du coup, c'est des gouttes d'eau qui se rajoutent, tu vois.
Ouais, c'est un film à twist qui en a un petit peu. Ouais, il fallait en fait, c'était ça le truc, c'est il fallait montrer. Il faut montrer une femme, une masse super forte.
Ouais.
Il faut
sa vengeance en fait.
Il faut un PN aussi, quoi. Ouais. Dans sa manière, quoi. Et elle a sa vengeance, quoi. Et, donc elle part, elle vole la combinaison invisible et elle part avec pour pas laisser de preuves, quoi.
Voilà, c'est ça. Et que peut-être elle va utiliser ça pour d'autres choses.
Et après, oui, elle va devenir, bah, à mon avis, elle va rejoindre Sean Connery et la Ligue des Gentlemen. Ouais, c'est extraordinaire, c'est clair. Hein. Elle va faire des belles aventures avec Captain Nemo, quoi. Ça va être chouette. Ça peut être sympa. C'est quand même un.
Oui, c'est quand même un bon petit film qu'il faut prendre qu'il conseille.
Ouais, je pense que ça peut être intéressant à aller voir au cinéma, justement. Avec le son, le côté oppressant, il est quand même.
Oui, alors par contre, parlons deux secondes de la musique qui, je trouve, ne va pas.
Gavante super rapide.
Qui est super pénible et qui est vraiment chiant. La musique est tout moche, c'est-à-dire, soit on a une espèce de truc un peu grosse nappe de présence synthé.
Qui te claque les oreilles.
Qui, voilà, puis après, soit avec des percussions, des pulses comme ça qui vient te
donner. Ça m'a fait penser à deux réalisateurs, un film. Un réalisateur et un film, le fameux Terminator Dark Fate.
Oui, ce que tu avais dit.
Ça m'a gavé ce bande-son, quoi. Et à la Villeneuve aussi.
Oui.
Genre mais... comme dans The Revolt.
Oui, mais là, Johansson est beaucoup plus subtil, tu vois. Johansson.
Ça marche mieux, c'est clair. Mais,
feu Johansson, d'ailleurs.
Ah ouais?
Oui, il est mort, l'année dernière, il y a deux ans. Mais. Mais oui, non, effectivement, puis les couches de violon, elles sont juste pénibles.
Au bout d'un moment, ça devient pénible. Ouais.
Alors voilà, bon bah en tout cas pour résumer, c'est un bon petit film, on ne faut pas s'attendre à des choses folles, mais ça marche bien.
Et au cinéma, si vous allez au cinéma et qu'il n'y a rien d'autre.
Ce qui est bien, oui, au cinéma, je
allez le voir.
C'est un bon film de cinéma.
Ce sera mon seul conseil.
Voilà, ok.
Pas
bon bah
minute,
on dit.
Jugement, voilà.
On dit ciao.
Ciao, ouais.
Allez, bon, ciao. Ben, à la prochaine, maintenant, vu qu'on a tout le matos.
Pour Sonic.
On va s'amuser et on va faire plein d'autres podcasts. Allez.
C'est clair. Allez, ciao à tous.
Ciao, à plus. À bientôt.